Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont de nouveau adopté le paquet de mesures fiscales. Ressources minérales et expropriations, les députés sont passés outre le veto du président. Et puis enfin, la Banque de République tchèque a laissé son taux directeur inchangé à 0,05%. Après son rejet il y a 2 semaines par le Sénat, la Chambre des députés est passée outre ce veto et a de nouveau adopté le paquet de mesures fiscales ce mercredi. Cette réforme prévoit à compter de l'année prochaine notamment l'augmentation d'un point à 15 et 21% des deux taux de TVA, une réduction des allègements fiscaux pour les entrepreneurs ou encore l'introduction d'une taxe de solidarité de 7% sur les revenus supérieurs à 4 000 euros mensuels. L'adoption de ce paquet, aussi appelé plan de stabilisation des finances publiques, est nécessaire pour l'adoption du budget de l'État qui prévoit une réduction du déficit à 100 milliards de couronnes, soit environ 4 milliards d'euros. Le texte doit désormais être signé par le président de la République avant de pouvoir entrer en vigueur. Václav Klaus dispose désormais pour cela de 15 jours. La Chambre des députés, toujours à elle, est passée outre le veto du président de la République concernant le texte de loi relatif à la suppression du droit d'expropriation des biens se trouvant sur des zones refermant des ressources minérales susceptibles d'être exploitées, notamment du charbon et du lignite. Václav Klaus estime que l'application de l'amendement en question priverait le gouvernement d'un instrument important dans sa politique énergétique et ouvrirait la porte aux spéculations immobilières. Actuellement protégées, ces zones géographiques que concernés sont la Bohême du Nord et la Moravie du Nord, région minière traditionnelle du pays. La Banque centrale de République tchèque a, comme attendu, décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés ce mercredi. Ceux-ci ont donc été maintenus à leur plus bas niveau historique. Le taux directeur principal, à savoir le taux auquel les banques commerciales et autres institutions financières peuvent emprunter auprès de la Banque centrale, reste donc à 0,05%. Les économistes s'attendent à ce que les taux directeurs restent au même niveau tout au long de l'année 2013. Par ailleurs, les ventes d'appartements et de maisons particulières en République tchèque sont en baisse, à l'exception de Prague et de Brno, les deux plus grandes villes du pays. L'activité de construction est pour cette raison pratiquement nulle et a entraîné une stagnation ou une baisse des prix de vente. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent de l'analyse du marché tchèque 2012, dont les résultats ont été présentés ce mercredi par l'Association pour le développement du marché immobilier. L'actrice pornographique ukrainienne Anastasia Irashova, qui s'est vue refuser son droit d'asile en République tchèque par le ministre de l'Intérieur, peut cependant rester pour le moment sur le territoire. Elle a en effet fait appel de cette décision et doit désormais attendre que le tribunal régional de Prague statue sur son cas, un nouveau jugement qui devrait intervenir au mois de février prochain. La jeune femme est poursuivie pour avoir propagé un contenu pornographique, un acte puni par la loi ukrainienne depuis 2009. Pour échapper à ces poursuites, elle risque une peine de 3 années de prison. L'actrice s'est donc réfugiée en République tchèque. Voici 2 ans, elle a déclaré ne pas aimer cette industrie, mais que celle-ci lui permettait de nourrir ses enfants. Ancien directeur général de la radio tchèque entre 1999 et 2009, Václav Kasík est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi. Václav Kasík a été victime d'une congestion cérébrale, également ancien directeur de la Philharmonie tchèque. Il était âgé de 65 ans. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très variable, d'abord nuageux puis plus ensoleillé dans l'après-midi qui règne sur une grande partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dagmar. Quelques faibles averses sont possibles qui se transforment en chute de neige au-dessus de 500 mètres. Les températures sont en légère baisse puisqu'elles varient entre moins 2 et 2 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Anna Kubishta pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Guillaume pour son bulletin d'information. La Haute Cour de justice de Prague a décidé de condamner le député du parti de droite ODS, Roman Pekárek, à 5 années de prison lors d'un jugement en appel. Roman Pekárek, rappelez-vous, c'est cet homme politique qui s'était retrouvé député début novembre en remplacement d'un collègue qui avait renoncé à son mandat et dont le vote avait permis au gouvernement Nečas de survivre à un vote de censure. On continuera dans notre série de médaillons des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est celui de Zuzana Rojtová, eurodéputée, que nous vous proposons. Bonne écoute de ce programme. Il n'aura été député qu'un mois et quelques jours. Roman Pekarek du parti de droite ODS a vu sa culpabilité dans une affaire de corruption et d'abus de confiance confirmée en appel par la Haute Cour de justice de Prague, qui l'a condamné à 5 années de prison et à une amende de près de 10 000 euros. Sa nomination à la députation en urgence a tout de même permis au gouvernement de sauver sa peau lors d'un vote de confiance et d'adopter une série de lois controversées, qu'il s'agisse du paquet de stabilisation financière ou des restitutions des biens aux églises exproprié par le régime communiste. Pierre Maignan.
Vraiment, je ne sais que faire de cela. C'est par ces mots qu'un Roman Pekarek désemparé a quitté illico presto la cour de justice de Prague. Déjà condamné à 6 ans de prison en mai dernier, le tout récent député du Parti civique démocrate, ODS, principale formation de la coalition gouvernementale au pouvoir, avait fait appel de cette décision et semblait convaincu qu'il serait disculpé des faits de corruption et d'abus de confiance qui lui sont reprochés quand il était adjoint au maire de la ville de Kolyne, à quelques enclaves à l'est de Prague. Il aurait ainsi vendu un terrain à un entrepreneur de Brno pour un prix 3 fois inférieur à sa valeur réelle. En échange de cela, il aurait demandé une somme d'argent conséquente, un accord qu'un enregistrement entre les deux hommes corrobore. L'avocat de Roman Pekarek a cependant contesté la pertinence de cette preuve sonore, mais le juge Martin Zelenka a estimé que les arguments de la défense étaient irrécevables.
Si on argue que cet enregistrement sonore ne permet pas d'établir que le prévenu Roman Pekarek n'a pas formellement demandé un pot de vin d'une somme de plus d'1 million de couronnes, alors la Cour d'appel considère cette allégation comme parfaitement absurde, car au contraire, cet enregistrement est authentique et surtout la demande de pot de vin y est très nette. Elle ne laisse admettre aucune autre possibilité. Zejména tedy v tomto směru je jeho žádost o úplatek
zřetelná a jinou možnost nepřipouštějící. Lors de sa nomination de dernière minute, début novembre, en remplacement d'un membre dissident de l'ODS, l'opposition social-démocrate soupçonnait le groupe parlementaire civique démocrate d'avoir demandé la loyauté à Roman Pekarek, en échange de quoi son immunité parlementaire le protégerait des poursuites auxquelles il faisait face. Le nouveau député a pourtant été très vite totalement abandonné par sa famille politique. Il a ainsi été membre du groupe parlementaire ODS que durant 1 jour et demi. Surtout, le 4 décembre dernier, 158 députés sur les 161 présents ce jour-là ont considéré que Roman Pekarek devait répondre de ses actes devant la justice et ont donc levé son immunité parlementaire. Les partis du gouvernement auraient cependant préféré qu'il quitte son poste de son propre chef, mais ont été contraints de le pousser vers la sortie. Peter Gazdik, le président du groupe parlementaire Top 09.
Il s'agit malheureusement de sa décision personnelle. Aucune force au monde n'est capable autrement de lui faire abandonner son mandat de député.
Il faut dire que Roman Pekarek était devenu plus qu'embarrassant. La médiatisation grandissante de cette nomination, pour le moins sujette à caution, a pu jouer un rôle, tout comme la relative maladresse de l'ancien adjoint au maire de la ville de Kolyne. Une maladresse qui s'est exprimée par exemple dans un entretien à la radio tchèque le lendemain de sa prestation de serment de nouveau député, où il a produit un discours totalement incohérent, ne parvenant ni à se souvenir des événements ayant amené à sa nomination, pourtant intervenue 24 heures plus tôt, ni s'il avait promis de voter en faveur des projets gouvernementaux, ni même en quels termes la question de sa condamnation avait été évoquée. On l'écoute.
Comprenez que ce sont des moments où peu de choses restent en mémoire. Au moins, en ce qui me concerne, je suis un homme relativement émotif et j'ai déjà fait l'expérience au cours de ma vie d'instants d'émotion dont je ne parviens pas à me souvenir par la suite. Je me rappelle plutôt d'un sentiment, d'une humeur, d'une situation, mais je n'imprime vraiment pas les mots qui ont pu être dits.
La coalition gouvernementale s'est donc débarrassée d'un député gênant qui lui a pourtant sauvé la mise puisqu'il lui a permis d'obtenir la confiance d'une majorité des membres de la Chambre basse et a voté tous les textes sur lesquels le gouvernement semblait embourbé. Le projet de stabilisation financière incluant une hausse de la TVA ou encore la restitution des biens aux églises, jugé par beaucoup inapproprié en ces temps de vache maigre. Roman Pekarek ne peut plus exercer de fonction d'État durant 5 ans mais semble pouvoir rester député
députés s'ils le souhaitent. La question se pose cependant de savoir comment il pourrait, dans ce cas, assurer ses fonctions depuis la prison où il devrait être accueilli dès la semaine prochaine.
Radio Prague poursuit sa série de portraits des 9 candidats à ce jour officiel à la prochaine élection présidentielle en République tchèque, organisée pour la première fois au suffrage universel direct. Son premier tour aura lieu les 11 et 12 janvier 2013. Suite au tirage au sort que nous avons effectué au sein de la rédaction afin de respecter les règles d'équilibre de représentation des candidats dans les médias, c'est la candidate et eurodéputée Zuzana Rojtova, 59 ans, que nous vous présentons aujourd'hui. Députée européenne depuis près de 9 ans, ancienne sénatrice, Zuzana Rojtova est à l'origine médecin et c'est avec une image toute médicale qu'elle promet de soigner la République tchèque, non sans subrepticement tacler le président Václav Klaus en fin de mandat.
Je pars du principe que pour que le président puisse soigner la démocratie, il ne doit pas être lui-même contagieux. Cela signifie qu'il ne peut pas être lié à des groupes corrompus ou à des scandales. C'est quelque chose de très important pour la fonction. Évidemment, le président ne peut pas tout, mais il a assez de compétences pour nommer des juges de qualité, des membres de qualité au conseil de la Banque centrale qui sauront prendre les bonnes décisions pour ce pays. C'est ainsi que le président pourra regagner la confiance des gens en l'État et en son avenir.
Si l'ensemble de la carrière de Zuzana Rojtova est exemplaire en termes de transparence et fait d'elle une candidate capable de restaurer le respect dans la politique tchèque, avec 4% des intentions de vote, elle n'est pourtant guère accompagnée d'un quelconque soutien populaire. Selon de récentes statistiques, elle serait une des députées européennes les plus laborieuses au Parlement. Lors d'un bref passage à la tête du ministère de la Santé dans le gouvernement Tochovski en 1998, elle a essayé d'y faire le ménage et de se débarrasser des personnes soupçonnées de corruption. Elle a également été directrice d'un des plus grands hôpitaux de Prague dans les années 90. Membre du Parti chrétien-démocrate depuis 1998, Zuzana Rojtova a toutefois déclaré qu'elle renoncerait à sa carte de parti si elle était élue, estimant qu'un chef de l'État ne doit pas être affilié à un quelconque mouvement politique. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle perçoit le rôle du président en tant que conciliateur.
Je pense que le gouvernement soufflerait un peu s'il y avait un président qui cherchait le consensus, en tout cas qu'il s'agisse de politique étrangère, intérieure ou européenne, qui est pour nous également très importante. Il est nécessaire que le président s'efforce de régler les problèmes existants, les problèmes d'opinion, en rassemblant les gens autour d'une table ronde, qu'il communique sur la politique extérieure avec le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, mais aussi les personnes des commissions aux affaires étrangères du Parlement. Ainsi, la politique pourra être unitaire et lisible pour nos citoyens. Nous serons des partenaires sur lesquels on peut compter.
Ainsi, Zuzana Rojtova entend se différencier de l'actuel président tchèque, farouchement eurosceptique. Membre du Parlement européen, Zuzana Rojtova veut changer l'image de la République tchèque vis-à-vis de ses partenaires européens.
Notre avenir repose sur la coopération. Ce continent est prédestiné pour cela parce qu'il est composé de nombreux petits pays. Notre pays n'est pas petit, il est moyen si l'on prend en compte le nombre d'habitants. Je pense donc que nous ne devrions pas nous sous-estimer, que nous devrions nous affirmer davantage et ne pas être des outsiders.
Zuzana Rojtova est entrée en campagne avec pour mot d'ordre l'humain et la volonté de remettre les hommes au cœur des préoccupations politiques. Une ambition qui puise ses racines dans le message de l'ancien président Václav Havel, dont Zuzana Rojtova se revendique sans détour. Comment vivait-on sous le règne de l'empereur François-Joseph Ier ? L'exposition Monarchie, inaugurée le 13 décembre au Musée national de Prague, présente la vie à la cour impériale de Vienne, la vie de la noblesse, des bourgeois, mais aussi la vie de tous les jours des habitants de la monarchie austro-hongroise entre les années 1848 et 1918, donc jusqu'à l'éclatement de celle-ci et la création de la République tchécoslovaque indépendante. Jarka Gisubelova pour plus de détails dans cette rubrique historique.
Chapitre de l'histoire.
À
Après l'exposition intitulée « République », le Musée national a choisi un autre grand thème de l'histoire tchèque, la période du règne de l'empereur François-Joseph Ier. L'ambiance de la deuxième moitié du 19e et du début du 20e siècle revit dans les locaux du nouveau bâtiment du Musée national grâce à des objets rares et uniques, observe le directeur du musée Michal Lukeš.
Notre intention n'était pas de glorifier avec nostalgie les temps révolus. Après le succès de l'exposition République, nous avons décidé de remonter plusieurs années en arrière et de prêter cette fois notre attention aux événements ayant précédé la création de la République, donc notamment à la deuxième moitié du 19e et au début du 20e siècle.
Quelle période précise sur les près de 400 ans d'existence de la monarchie est-elle présentée à l'exposition? C'est son commissaire Petr Landre qui nous le dira.
L'exposition ne couvre pas toute cette longue période de l'existence de la monarchie, uniquement celle entre les années 1848-1918, qui sont des années de règne de François-Joseph Ier. Néanmoins, on y mentionne aussi le règne de son successeur, Charles Ier, et de son prédécesseur, Ferdinand Ier. Les différentes parties de l'exposition sont consacrées à l'empereur, sa famille, à l'histoire de l'Autriche-Hongrie et aux échos de la monarchie dans la vie de tous les jours.
Sur des panneaux présentant la personne de l'empereur et sa famille, on peut lire que François-Joseph naît le 18 août 1830 et mort le 21 novembre 1916 à Vienne et à sa naissance, troisième seulement dans l'ordre de succession. Or, Ferdinand Ier se montre trop compromis avec les révolutionnaires suite aux émeutes de 1848 à Vienne et c'est ainsi que le temps de l'avènement est venu pour François-Joseph. La passation de pouvoir entre lui et son oncle a lieu officiellement le 2 décembre 1848 dans la grande salle du palais archiépiscopal d'Olomouc. En 1854, François-Joseph Ier épouse Élisabeth dite Sissi. 13 ans plus tard, tous deux sont couronnés roi et reine de Hongrie. Pour la monarchie, cet acte signifie que l'empire unitaire est remplacé par un système dualiste. La vie privée de l'empereur est marquée par deux drames. Sa première fille Sophie meurt en bas âge. Son fils Rodolphe, dépressif et gravement malade, s'éloigne de plus en plus de son père, qui ne parvient pas à saisir sa détresse, qui mène au drame de Meyerlinck le 30 janvier 1889. Le 10 septembre 1898, l'impératrice Sissi est assassinée par un anarchiste italien. Après la mort de Rodolphe, l'archiduc François Ferdinand apparaît comme le successeur désigné de son oncle. Arrivé en juin 1914 à Sarajevo pour y assister à des manœuvres militaires, lui et son épouse sont victimes d'un attentat. Le gouvernement austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Gravement malade, l'empereur remplit ses obligations officielles à Vienne jusqu'à sa mort le 21 novembre 1916, à l'âge de 86 ans, après un règne de 68 ans. Petr Landre.
Trois portraits aux dimensions monumentales de François-Joseph présentés à l'exposition Monarchie doivent documenter le vieillissement de l'empereur et de sa monarchie. Le premier tableau de 1851 présente François-Joseph à l'âge de 21 ans. Le deuxième a été créé 10 ans plus tard. Sur le troisième portrait, daté de 1892, l'empereur apparaît considérablement vieilli.
Les près de 70 ans de règne de l'empereur François-Joseph Ier sont une période de transformation sociale profonde. La modernisation touche l'ensemble de la société dans les domaines les plus divers, l'industrie, l'agriculture, l'enseignement, la législation. Elle touche de près aussi le mode de vie de la noblesse, observe Petr Landre.
Nous essayons de montrer la transformation de la noblesse féodale en une noblesse nouvelle, celle notamment de barons du textile et de représentants issus des milieux autres que la noblesse d'origine qui était liée à la possession de terres.
Pour la toute première fois, on expose en République tchèque des objets ayant appartenu à l'empereur François-Joseph et son épouse, l'impératrice Elisabeth. Pour le directeur du musée national, Michal Lukeš, la plus précieuse est la robe en velours de couleur bleu foncé de l'impératrice Sissi.
C'est une robe de soirée qu'elle portait avant le suicide de son fils, le prince héritier Rodolphe, car après, elle ne s'est plus habillée qu'en noir. Créée vers 1860 et acquise plus tard par une dame d'honneur, la robe a été empruntée au musée d'art ancien de Vienne, qui la possède depuis 1964. Cette robe est l'une des rares au monde qui a été conservée. Parmi d'autres objets de grande valeur, on peut admirer l'uniforme de général de l'empereur François-Joseph Ier, le collier en diamant de Nadiezhda Kramářová, aristocrate russe, épouse du chef du premier gouvernement tchécoslovaque Karel Kramář. Il s'agit, pour autant que je sache, du bijou en diamant le plus cher de République tchèque.
Parmi les autres objets uniques à voir à l'exposition Monarchie, la canne du poète Jan Neruda, la caisse du corps pour la construction du Théâtre national, le premier annuaire téléphonique pragois de 1883 ou encore des objets liés à la Première Guerre mondiale, raconte Petr Landre.
Nous exposons un mouchoir de François Ferdinand d'Est, taché de sang que l'empereur avait sur lui au moment de l'attentat, ainsi que les distinctions qu'il portait lors de son voyage à Sarajevo.
Non seulement la vie à la cour impériale de Vienne, la vie de la noblesse et des bourgeois, mais aussi la vie à la campagne, dans les cuisines, les agences postales, les bureaux, la vie de tous les jours dans tous ses aspects, y compris l'univers des enfants, des objets d'usage quotidien comme les timbres-poste, le téléphone, des pièces de monnaie. Tout cela est présenté à l'exposition Monarchie qui se tient dans le nouveau bâtiment du Musée national, ancien siège de Radio Europe Libre. Jusqu'au 9 juin prochain.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Écoutez-nous en streaming, podcastez-nous, lisez-nous. C'est sur le site internet de Radio Prague, le www.radio.cz/fr, que vous retrouverez tous ces sujets. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.